Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est un peintre de grande envergure que Toulouse accueille depuis avant-hier pour une exposition à la Basilique Saint-Sernin, chercheur fidèle de la beauté infinie, comme il pourrait le dire de lui-même, un peintre qui n'aime pas qu'on dise de lui qu'il n'est qu'un peintre chrétien ou d'art sacré, mais qui est connu pour une œuvre, disons, religieuse, fait assez rare aujourd'hui dans le monde artistique. Un géant de la peinture pour les plus connaisseurs, auteur notamment d'une œuvre magistrale à Saint-Pierre de Chartreuse dans le massif de l'Isère, j'ai nommé Arcabas. Voilà pour cette émission Vivante Église ce matin, donc sur tout simplement Arcabas, donc ce peintre qu'on va découvrir au long de cette émission. Je reçois en plateau François Gauthier, vous êtes un proche d'Arcabas et vous travaillez au rayonnement de son œuvre, entre autres via les Amis d'Arcabas, et vous êtes son éditeur. Bonjour.
Bonjour.
Père Vincent Gallois, vous êtes curé de la basilique Saint-Sernin et vous êtes le prêtre accompagnateur de la diaconie de la beauté. Bonjour.
Bonjour.
Et Régis Courtrai, vous êtes maître de conférence à l'université Jean Jaurès et vous êtes. Entre autres, vous faites partie du laboratoire Patrimoine, Littérature et Histoire. Bonjour.
Bonjour.
Parlez bien devant les micros. Alors, Arcabas, on va faire à la fois du Arcabas pour les nuls et à la fois pour ceux qui connaissent, comme je vous disais, François Gauthier, en préparant cette émission. Commençons par présenter l'homme, peut-être. Alors, vous me disiez qu'il n'était pas forcément fan qu'on lui fasse des biographies trop longues. Toujours est-il que c'est un homme qui est né donc le 26 décembre 1926. En Moselle, et ça a quelque importance. C'est un fils d'instituteur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelques éléments sur sa prime jeunesse ?
Sa prime jeunesse, je ne sais pas. En tout cas, oui, ses racines sont dans l'est de la France, une terre auquel il reste très attaché. Très attaché aussi parce que l'un de ses maîtres était là-bas. Le peintre Kieffer, qui a été quelqu'un de très très important pour lui. Il y a une petite présence d'Arcabas localement. Il est reconnu, des œuvres figurent dans sa commune de naissance. Et puis pour l'anecdote, c'est une forme d'attachement aussi à cette terre-là. Robert Schumann est enterré dans la région et le mausolée dédié à Robert Schumann est décoré par Arcabas.
Alors, quand même sur sa famille, il y a au moins une chose qu'on peut préciser, c'est qu'il il dit que dans sa famille, il avait un peu une place à part ou qu'il était peut-être... Il dit de lui-même qu'il était un fils à part. J'ai lu ça dans une interview au journal Prié et dans une famille assez chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ?
Oui, assez chrétienne, sans doute chrétienne dans une forme de démarche classique. Je ne suis pas certain que ce soit là ou complètement là que ce soit construit le berceau de sa réflexion. En tout cas, ça a y contribué, c'est une part de sa démarche. Il y a eu beaucoup de choses après.
Donc il disait de son père que, voilà, il disait, enfin je le dis parce que ça a quelque importance, mon père tenait l'orgue à la paroisse et je crois bien qu'il priait en cachette. Quant à ma mère, elle avait une grande dévotion pour la Vierge, mais il dit qu'il s'est senti, et c'était, comment dire, une éducation chrétienne très libre, il s'est senti en effet très libre de choisir ou de ne pas choisir ou d'embrasser cette foi chrétienne. Alors je disais que c'est le fait qu'il soit né en Moselle avait quelque importance parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il fait partie des malgré nous. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est que ces malgré nous et ce qui s'est passé pour cet homme ?
C'est malgré nous, je suis pas historien, c'est malgré nous, ce sont ces jeunes adolescents en relais de force dans la Wehrmacht qui donc sont obligés à un moment donné de se glisser dans un uniforme qui est une violence pour eux. Ça marquera Arcabas toute sa vie. L'évoquer encore aujourd'hui est une blessure pas complètement refermée et ça va marquer aussi sa peinture. Je pense que dans sa peinture, il montrera longtemps le rejet de tout un tas de formes de violence.
Il y passe combien de temps, en fait, en Allemagne, comme ça vous...
De mémoire, je vous dirais une petite année.
D'accord. En tout cas, donc, il dit que c'était de fait une époque, semble-t-il, assez traumatisante. Il voit le sang couler, il revient assez traumatisé. Et donc, après, il embrasse la vocation artistique. Pas tout à fait, en fait. On a l'impression que, et il le dit lui-même, que les dures réalités de la guerre m'ayant donné envie de croquer la vie à plein nez, je me suis inscrit sans hésiter aux Beaux-Arts, malgré l'aspect aléatoire de ce type d'études. Alors, racontez-nous comment ça s'est fait. Il débarque à Paris et, en fait, il a fui, c'est ça, l'Allemagne ?
Il a fui, il arrive à Paris, si mes souvenirs sont bons... il peut trouver le réconfort auprès de quelques membres de sa famille qui habitent Paris. Et en effet, il devient élève aux Beaux-Arts. Il a sans doute fait partie de cette génération qui a arpenté dans tous les sens, et c'est important pour la suite de son œuvre, les grands musées, qui s'est baigné, nourri de la grande peinture. Paris, ça reste un élément constructif de son œuvre.
N'hésitez pas à intervenir, les autres, hein, c'est à votre guise. Donc il entre, pardon, vous voulez intervenir, donc Régis Coudray. Donc il entre à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris, et donc il a assez rapidement donc ce maître dont vous parlez, en tout cas il le décrit comme tel, graveur et peintre lorrain Clément Kieffer. Ou alors c'est peut-être un tout petit peu avant, redites-nous dans quel ordre chronologique en fait, ou quel a été le rôle de cet homme Clément Kieffer, comme un mentor.
Ça a été son mentor, ça a été son maître, ça correspond encore à cette période, je connais pas le fonctionnement des écoles des Beaux-Arts aujourd'hui, mais où de jeunes élèves peuvent se référer à un maître, et où un maître transmet son savoir pleinement et entièrement. Ça a été un grand maître pour lui, et il a essayé d'être un élève digne de cet enseignement.
Père Vincent Gallois, vous qui fréquentez un peu les artistes, ça existe encore ce mode de fonctionnement où un élève apprend un maître? On a l'impression que c'est une image un peu surannée aujourd'hui.
Je ne connais pas le fonctionnement des écoles artistiques aujourd'hui. Par contre, je vois des artistes qui sont toujours sensibles à d'autres artistes, et qui, en particulier la diaconie, certains connaissaient Arcabas ou l'ont découvert, et ont véritablement, vis-à-vis de cette proposition d'Arcabas, ce regard d'Arcabas, une grande admiration. Et un artiste se nourrit d'un regard d'un autre artiste. Ça, c'est...
Mais Arcabas n'a pas en résidence chez lui des étudiants. C'est...
Ah, je ne sais, connais
non,
pas.
Non.
Vous confirmez, François?
Aujourd'hui, non. Par contre, il a été un enseignant important, sans doute pour beaucoup d'élèves, puisqu'il a animé tant à Grenoble.
Alors allez-y, justement, il suit donc ses études à l'École supérieure des Beaux-Arts de Paris. Et alors peut-être avant de ça, on peut parler de sa conversion quand même, parce que ça a quand même quelque importance, et c'est à la faveur de ses années parisiennes qu'il renoue avec la foi chrétienne, même si j'ai pas lu grand-chose de ce qu'était cette foi chrétienne pour lui avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu.
Alors, je sais pas là non plus dans le détail.
J'en sais plus que vous sur certains aspects, dites-moi.
Peut-être, parce que vous vous intéressez à la période de sa vie, qui est une période importante, c'est une période de construction. C'est son cercle amical qui l'aide à cette conversion.
Alors, allez-y, Régis Coudray.
Oui, ce qui est important, c'est que souvent Arcabas dit qu'il a eu deux conversions, et sa première conversion, c'est la conversion à la peinture. La conversion à la foi, finalement, n'est qu'une conversion seconde, et la foi est venue éclairer, en quelque sorte, sa peinture, mais n'a pas bouleversé sa première conversion. Finalement, c'est une conversion à la recherche de la beauté tout au long de sa vie.
Ça veut dire quoi, une conversion à la peinture, peut-être, vous qui le connaissez un petit peu? Qu'est-ce qu'il en dit exactement?
Ça veut dire que Arcabas se définit comme un artisan, comme quelqu'un qui a un travail à faire. Je crois que le terme de travail est très fort chez Arcabas. La recherche infinie de la beauté, c'est la volonté de faire œuvre. C'est un sentiment très important.
Mais c'est venu dès le début, ce sentiment? Parce que ça, c'est peut-être ce qu'il en dit aujourd'hui. Mais...
Non, je pense qu'il l'a toujours eu. Pour l'anecdote, on évoquera sans doute un peu plus loin l'église de Saint-Hugues de Chartreuse. Mais très jeune, il a compris qu'il aurait ça à faire. Quand je dis très jeune, c'est qu'il a découvert le lieu du plateau d'Assis, que certains de vos auditeurs connaissent peut-être, qui est un monument important du renouveau de l'art sacré. Il a compris, il savait qu'il était en mission et qu'il devrait, à un moment ou un autre, faire ce type d'œuvre ou faire œuvre à cette échelle-là. Voilà.
Qu'en dites-vous, Père Vincent Gallois? Est-ce que Dieu appelle les artistes d'une certaine manière?
C'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une vocation. Ce qu'on est en train de dire d'Arcabas, c'est qu'on décrit qu'il a une vocation artistique. Et que cette vocation, elle est pour lui d'exprimer, de donner son regard sur le monde, sur la réalité que nous partageons tous, et qu'il traverse cette réalité pour nous la montrer. Et un artiste, c'est quelqu'un qui nous donne à voir le réel. Et quand un artiste nous donne à voir d'une façon nouvelle le réel, c'est un prophète. Et il est quelque peu le prophète aujourd'hui, un des prophètes qui nous montre la consécration de la réalité, la consécration de ce monde, jusque dans ses tourments. Et c'est ça qui est intéressant chez Arkabas, voilà. Alors, si vous voulez, la question, est-ce que c'est en telle année qu'il s'est converti, ou ceci ou cela, c'est secondaire, hein, parce que la vocation artistique est une vocation de type prophétique.
Régis Courtrai.
Simplement pour compléter ce que le père Gallois vient de dire, avant-hier, lors de l'inauguration de l'exposition, Arkabas a adressé quelques très rapides mots aux visiteurs pour leur dire « Voilà, tout ce que je vous demande, ce n'est pas de regarder, c'est de voir ce qu'il y a dans les tableaux. »
Alors, je vais quand même dire un mot pour défendre mon bout de gras, mais aussi parce que ça a quelque importance. Donc, c'est dans une interview à la revue Reflet et au magazine Prier. Il dit donc, quand il était à Paris, qu'il connaissait un gars du Nord, un bon vivant, qui, dans un appartement, essayait de faire une illustration de la Bible et lui citait tout le temps des passages de l'Évangile. Et il dit « Et un jour, je me suis dit qu'il fallait que je lise ces Évangiles, d'où sortaient ses propos étranges avec une certaine beauté cachée. Je les ai lus et j'ai eu une espèce de coup de foudre. Quelque chose s'est fait lentement par degré de prise de conscience et je suis devenu celui que j'étais. »
« Je suis devenu celui que j'étais. » Voilà. « Deviens ce que tu es », nous dit saint Augustin. Voilà, la vocation, c'est jamais qu'un accomplissement de ce que le Seigneur nous demande d'être. Voilà, et c'est le gage d'une vie accomplie.
Alors, il commence... Est-ce que vous pouvez nous parler des débuts de sa vie d'artiste ? Parce qu'il a aussi enseigné à l'école des Beaux-Arts de Grenoble, et puis rapidement, il s'est lancé donc dans son œuvre magistrale, qui est donc Saint-Hugues de Chartreuse. Racontez-nous un peu les débuts, et surtout cette œuvre magistrale.
Il a un poste à l'école des Beaux-Arts de Grenoble, donc il vient, il se fait adopter par la région iséroise. Pas tout de suite par la Chartreuse, il vivra longtemps dans Grenoble, au contact du monde étudiant, au contact du monde culturel, au contact de certains mouvements de pensée. Pour l'anecdote, c'est chez Arkabas que se réunissaient les équipes de réflexion autour de Mounier et de Jean-Marie Domnac. Ça parlera à certaines personnes sans doute. Il a très vite la conscience qu'il faudra qu'il fasse œuvre. La première d'ailleurs de ses grandes réalisations monumentales est un lieu très peu connu. C'est en Savoie et c'est dans le village familial de son épouse Jacqueline qu'il va peindre un oratoire, une petite chapelle. J'allais dire, c'est son premier monument religieux. Saint-Hugues de Chartreuse, c'est venu avec la volonté d'une recherche d'un lieu à décorer.
Alors dites-nous déjà où se trouve, enfin on dirait c'est un peu évident vu le, le nom, mais...
Saint-Hugues de Chartreuse se trouve en fait sur la commune de Saint-Pierre de Chartreuse. C'est l'un des cœurs battants du massif de la Chartreuse. C'est un des villages importants, un peu la capitale de la Chartreuse, pas très loin du monastère de la Grande Chartreuse. C'est un lieu un peu retiré, à l'écart du monde. La Chartreuse est un lieu apaisé. Et il y a cette église, dans un des hameaux de Saint-Pierre de Chartreuse, à Saint-Hugues, cette église Saint-Hugues, qui est en cours de travaux, qui est vide. Et Arkabas fait la proposition au curé du village de faire quelque chose pour la faire vivre, cette église. Et il va réaliser quelques pièces, des tentures, sur la toile de jute. Les moyens sont réduits, hein. Arkabas n'a pas de très gros moyens. Il réalise de grandes tentures qui... font partie prenante de l'église, auquel adhère parfaitement le prêtre, qui sera un compagnon de route longtemps, mais auquel adhère aussi le maire du village, une partie de la population, et la porte lui est ouverte pour que cette église soit son grand œuvre.
Et alors à quoi ça ressemble aujourd'hui peut-être ? Est-ce que vous pouvez nous dire ?
Aujourd'hui, Saint-Hugues de Chartreuse,
Il est revenu et re-revenu dans cette église, voilà. D'une certaine manière.
C'est un ensemble qui contient plus d'une centaine d'œuvres. Peinture, bien sûr, vitraux, sculpture, aménagement liturgique, qui a été réalisé sur trois décennies environ, avec des périodes, des coupures, puisqu'il y a eu d'abord ce niveau central de ces grandes toiles de jute, et puis la volonté après de dire les évangiles, avec un ensemble de toiles plus abstraites. Plutôt des signes, voilà, une peinture symbolique Et toute l'église est construite comme ces églises italiennes, avec un couronnement et une prédelle, c'est-à-dire une partie en dessous, très imagée.
Voilà, on va faire une première pause musicale et puis après on va décrire certaines de ses œuvres. Alors pas celle justement de Saint-Pierre de Chartreuse, si je ne me trompe pas, mais comment dire, donc les œuvres qui sont exposées donc à la Basilique Saint-Sernin pour cette exposition donc, qui a commencé avant-hier sur Arcabas et qui continuera jusqu'au 4 juin. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être pourquoi vous accueillez Arcabas en ce moment?
C'est le temps pascal. C'est le temps pascal et Arcabas est véritablement un peintre de la résurrection. Et comme on a l'habitude à la Basilique Saint-Sernin d'avoir des chemins de croix, et même si cette année c'est un chemin de Pâques, puisque notre archevêque nous avait fait une méditation qui nous menait des cendres jusqu'à la résurrection, Arcabas nous présente dans le temps pascal, donc du dimanche in albis, dimanche avant-hier, deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la Miséricorde, jusqu'au dimanche de Pentecôte. Et donc c'est véritablement le temps où nous sommes illuminés par la résurrection, et pas simplement illuminés, mais consacrés, et nous avons à découvrir la présence du ressuscité. Et dans l'œuvre d'Arcabas, on remarque chaque fois, souvent en tout cas, une croix d'or, en feuille d'or, et qui peut être quelque peu cette présence du ressuscité à la réalité de ce monde.
Voilà, on va faire une première pause musicale et puis après on va parcourir quelques-unes de ses œuvres et ensuite aller plus faire plus connaissance avec cet artiste assez exceptionnel. Thank you.
Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, donc, une émission Vivante Église, donc, sur Arcabas, avec, si vous nous prenez en cours de route, autour du plateau, Vincent Gauthier, qui est donc un proche d'Arcabas et qui travaille au rayonnement de... François Gauthier, pardon, qui travaille au rayonnement de son œuvre via les Amis d'Arcabas et qui est son éditeur, le père Vincent Gallois, qui est curé de la Basilique Saint-Sernin et prêtre accompagnateur de la Diaconie de la Beauté, et Régis Courtrai, maître de conférence à l'université Jean Jaurès. Alors, on va maintenant parler de ses œuvres, même si à la radio c'est toujours un défi que de parler de peinture. Mais avant, est-ce qu'on peut préciser aussi pourquoi Arcabas n'est pas en plateau? Parce que ça fait toujours bizarre de parler de quelqu'un sans que cette personne puisse s'exprimer. Mais c'est pas faute d'avoir voulu, c'est que de fait, ça n'est plus vraiment possible.
Alors, ça n'est plus vraiment possible. Vous avez donné sa date de naissance tout à l'heure. C'est un homme qui a aujourd'hui un certain âge, qui nous a fait, je crois à tous, le grand honneur de se déplacer avant-hier pour le vernissage de l'exposition à Toulouse.
Il a 91 ans, c'est ça ?
Il a 91 ans. S'éloigner longtemps de sa chartreuse, de ses chevalets, est quelque chose de difficile. Et à l'heure où nous parlons, il a regagné la chartreuse. Et c'était ça le plus important aussi, d'être présent à Toulouse, mais aussi de rentrer en chartreuse.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être comment s'est fait la sélection des œuvres avant qu'on en parcourt certaines? Je vois qu'il y a différentes thématiques. Comment le choix s'est opéré et pourquoi? Voilà, pourquoi certaines plus que d'autres?
Alors, je crois que ce choix nous échappe en quelque sorte, parce que c'est
lui
Arcabas lui-même, avec son épouse Jacqueline, qui avait décidé des œuvres qui seraient exposées ici. Alors, ce qui est intéressant dans les œuvres, c'est qu'on a un panel à peu près complet des différentes thématiques qui sont abordées par Arcabas. On a certaines toiles qui nous parlent de sa propre vie et de sa peinture, de l'inspiration de sa peinture. On a d'autres toiles qui sont plutôt des scènes d'inspiration biblique ou qui vont parler de la vie spirituelle. On a des toiles, on en parlera sans doute, qui abordent la question de l'engagement de son art. Et puis on a d'autres toiles qu'on n'attend pas forcément dans cette exposition, parce que pour un visiteur d'une exposition d'Arcabas, on s'attend à ne trouver que des œuvres d'art sacré, mais pour Arcabas, son œuvre dépasse infiniment l'art sacré. Tout est sacré pour lui, il n'y a pas de frontière entre profane et sacré, et on va trouver du coup des scènes de la vie quotidienne également.
Alors, comment vous décririez son œuvre, François Gauthier, pour commencer? C'est une œuvre figurative, ça fait un peu court de dire ça,
C'est une œuvre figurative, certainement, pour une grande partie de son œuvre.
Ça vaut le coup de le dire, parce que c'est pas toujours très fréquent aujourd'hui, donc...
Tout à fait. C'est une œuvre symbolique, avec une écriture qui lui est propre, un certain nombre de symboles, d'éléments qui reviennent inlassablement dans son travail et qui nous aident à entendre certains messages. C'est une peinture et une œuvre inspirée de la grande peinture classique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de règles sont...
Alors ça veut dire quoi, ça, pour ceux qui s'y connaissent moins?
Ça veut dire, je vais essayer de l'imager, on est à la radio, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça veut dire que certains visages, par exemple, sont dignes des visages de la grande peinture italienne. Certaines fois, ces visages prennent une liberté qui peut surprendre le public, et puis d'autres fois, parce que à ce moment-là, c'est important, c'est précis, le visage est d'une beauté, on dirait des princes italiens du XVIe siècle.
Voilà.
Il sait peindre ça. Ça lui donne le droit de toutes les autres libertés.
Il faut aussi peut-être, pour présenter son œuvre de manière générale, non, insister aussi sur la lumière qu'il y a dans son œuvre, non ? Et puis.
La lumière et la couleur.
La lumière et la couleur.
Et j'allais dire, quand on parle de lumière, et de couleur, il y a deux couleurs qui sont très importantes dans l'œuvre d'Arcabas. Il y a l'or, qui est sans doute une traduction du divin, et il y a les blancs, qui sont une vraie couleur dans la peinture d'Arcabas. Un blanc n'est pas un oubli, n'est pas un vide, c'est la puissance lumineuse du blanc qui est là et qui permet de donner encore plus de puissance aux autres couleurs, je pense.
Alors la première chose qui peut frapper, en tout cas quand on découvre son œuvre, c'est donc en dehors du fait que de ce que vous venez de dire et du fait que c'est une peinture figurative, donc on va dire assez accessible hein, au grand public, c'est donc les visages. Les visages chez Arcabas sont très divers, mais parfois on dirait des visages un peu d'une peinture primitive, si je puis me permettre. Hein, je suis pas un grand spécialiste, mais vous allez compléter mon propos. Est-ce que je sais pas comment vous décririez ces visages, par exemple. On va prendre l'exemple du tableau La Réconciliation. Donc, ce sont deux hommes qui s'embrassent et qui vivent le bonheur du pardon. Et les visages sont, on va dire, dessinés ou peints un peu au couteau, avec des traits qui peuvent paraître un peu caricaturaux. Qu'est-ce que vous diriez de ces visages figuratifs, de ces visages qui ont des côtés un peu primitifs?
Alors, primitif, je ne sais pas si c'est le terme.
C'est vous le spécialiste. Hein, c'est...
Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un terme spécifique pour définir les visages d'Arcabas. Ce qui est très important dans son œuvre, c'est que les visages sont expressifs. Et dans La Réconciliation que vous citiez, les visages sont là, ils sont présents. Mais peut-être que certains traits dans les visages... en diront long aux visiteurs de l'exposition. Parce que là, une fois de plus, on parle, mais il faut voir les œuvres, il faut s'approcher de ces visages.
Ne vous inquiétez pas, on leur dira de venir à la fin de l'émission.
Mais
pour l'instant, ça reste une émission de radio, je ne peux pas faire de magie. Donc...
s'approcher de ces visages et voir la manière dont Arcabas a en effet traité la personne, ses yeux, son regard, où les émotions sont transmises beaucoup par les regards, mais particulièrement dans cette toile que vous évoquiez, s'intéresser aux lèvres des personnages qui sont juste, alors vous ne le voyez pas sur l'image que vous avez sous les yeux, mais qui sont juste dessinés comme si dans cette réconciliation il y avait des chuchotements. Je pense que dans les visages d'Arcabas, il y a ça, il y a cette traduction de l'émotion ou du sentiment qu'Arcabas a voulu évoquer. Dans ce tableau, ça prend cette forme, et dans un autre tableau, ça prendra une autre forme, mais c'est toujours l'émotion qui est derrière.
Régis Courtrai, sur ces visages.
Oui, on peut parler d'autres visages qui, effectivement, sont expressifs, qui suscitent, où on sent vraiment toute l'émotion des personnages. Par exemple, dans le tableau que vous avez sous les yeux, Golgotha, où on voit cette Vierge en pamoison qui est blême, bleue, une Vierge qui s'effondre complètement, laissant tomber un mouchoir comme étant la dernière chose à laquelle elle s'accrochait dans cet espoir au moment de la mort de son fils. Et puis, une sorte de clou qui sort de la croix pour venir frapper le visage de la Vierge. Et quand j'en discutais avec Arcabas, il me disait « Mais la Vierge, à ce moment-là, elle reçoit comme un coup de marteau. » Et ce coup de marteau, on le ressent fortement en voyant ce visage de...
Ce visage qui est presque écrasé, oui.
Exactement. Autre visage, celui de la détresse de Tobie. Tobie qui a laissé partir son fils, Tobie, loin de chez lui pour aller se marier et qui ne voit pas revenir son fils. Et on sent vraiment dans ce tableau la détresse de Tobie, tout le désespoir intérieur, tout le doute que Tobie éprouve.
Alors à propos des visages, pardon, donc je rebondis aussi dans ce tableau Golgotha, on voit ces visages qui reviennent assez souvent chez Arcabas, où on a l'impression qu'il y a comme des yeux doubles. J'imagine qu'il il en a parlé ou il s'est expliqué là-dessus. Alors il ne s'agit pas de tomber dans l'anecdotique, mais c'est quand même aussi une marque un peu de sa peinture. Qu'est-ce que vous en diriez les uns les autres de ces yeux qui paraissent...
Moi, j'aurais envie de reprendre
François Gautier.
Presque ces mots d'il y a quelques jours lors du vernissage, où il expliquait devant moi à une personne que chacun des personnages de ces tableaux sont des personnages avec lesquels il est en dialogue. Et on ne dialogue pas avec les gens de profil, on dialogue avec les gens de face. Et il a besoin du regard de ces personnages aussi pour pénétrer avec eux dans l'action du tableau. Donc c'est une manière pour lui de nous les rendre aussi visibles pour nous de face, même s'ils sont de profil.
Alors, autre chose, c'est donc la présence des anges dans son œuvre. Alors ça, pour le coup, c'est pas fréquent. Là, il y a donc quelques œuvres, il y en a deux en tout cas. Mon ange m'applaudissant, où on voit donc une espèce d'esquisse d'ange, pour faire très court, et surtout peut-être un autre tableau, Ange gardien ex voto, donc où un grand ange de lumière a un enfant à ses pieds avec ses grandes ailes déployées. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la dévotion qu'Arcabas a aux anges et de leur présence, et même parfois du rôle que les anges peuvent avoir dans son œuvre, en tout cas de ce qu'il en dit.
Et même.
Régis Courtrel.
Alors, effectivement, les anges sont très présents dans son œuvre, mais j'ai envie de dire que les anges sont très présents pour lui dans sa vie. Il a tendance à dire que voilà, son atelier est habité par des anges, que des anges sont partout autour de lui. Et c'est un petit peu comme ces représentations de Saint-Luc qui peint la Vierge. On voit toujours chez Arcabas un ange derrière Saint-Luc qui guide son geste, qui inspire la peinture de Saint-Luc. Et Arcabas, c'est François Gauthier me complétera, mais je pense est persuadé que il a un ange qui veille sur lui et qui l'aide dans son œuvre de peintre.
Alors peut-être juste, je vais vous donner la parole, Père Vincent Gallois, mais vous pouvez faire une petite incise sur la foi de l'Église quant aux anges, parce que ça peut pas, c'est pas forcément évident pour tous nos auditeurs que les anges existent.
Alors les anges existent, Dieu soit loué. Ils sont justement, les anges nous sont donnés par Dieu à la fois comme anges gardiens, hein, c'est dans le livre de l'Exode que ça nous est présenté. Et justement, si Arcabas peint des anges, c'est d'abord qu'il est conscient que les anges sont des messagers. Voilà, ils sont chacun messagers au service de la grâce, au service du projet du Seigneur. Et si les anges sont présents dans l'œuvre d'Arcabas, c'est qu'il a d'abord conscience qu'il est accompagné. Et qu'on parlait de sa vocation. Eh bien, c'est un témoin de cette vocation-là. Il est accompagné pour l'accomplissement de son œuvre. Et il révèle aussi à chacun d'entre nous que nous sommes aussi accompagnés. S'il y a un ange gardien, mon ange m'applaudissant, c'est sa dévotion personnelle à son ange gardien, ça peut renvoyer aussi le visiteur, celui qui regarde ce tableau, à s'interroger, et mon ange à moi, voilà. Et comment j'accueille le soutien que l'ange gardien qui m'est donné par le Seigneur me procure. Voilà, je crois qu'il y avait véritablement une confession de foi. Et puis à Saint-Cernin, c'est une église pleine d'anges. Il y a des anges sur les chapiteaux, il y a des anges à l'entrée de la porte Miégeville, il y a des anges sur les fresques du Moyen-Âge qui demeurent. C'est une église pleine d'anges. Il y a des anges adorateurs au maître-autel, véritablement. Donc c'est important de voir qu'il y a ce dialogue qui continue entre la foi de l'Église de toujours et qui a exprimé cette présence angélique, hein, cette présence finalement de l'invisible à notre monde et l'œuvre d'Arcabas.
Oui, Régis Contré.
Puis chez Arcabas, il y a des anges qui sont espiègles également. On pense forcément à l'un des tableaux qui se trouve à Saint-Hugues de Chartreuse où on a un ange à bicyclette qui a l'air de parcourir autour de Marie qui porte l'enfant Jésus. Il a l'air de faire le tour de Marie dans sa joie de cette naissance. On a aussi des anges fumeurs, parce qu'Arcabas aime fumer, et on a un ange à la cigarette qui
fait sa pause.
Voilà, qui qui ne manquera pas de surprendre.
Je compléterai juste le propos sur les anges. On a eu le titre là, mon ange m'applaudissant. C'est bien l'ange d'Arcabas. Je pense que il a la conviction, on peut tous avoir cette conviction, qu'il est entouré par un certain nombre d'anges qui viennent l'applaudir quand ils sont contents de lui, qui viennent surtout lui souffler, et c'est très présent dans son œuvre, puisqu'on voit même ce souffle parfois dessiné, l'inspiration. Il a le sentiment d'être accompagné dans son œuvre.
Donc voilà, à propos des anges, il n'y a pas qu'Arcabas qui croit aux anges. J'ai souvenir d'une interview de Xavier Emmanueli, fondateur du SAMU Social, qui dit qu'il a lui-même une grande dévotion pour ses anges, et quand il en parlait autour de lui, et entre autres dans sa famille, ça faisait, hélas, souvent bien rigoler ses proches, ou en tout cas, ça les laissait interrogatifs. Évidemment, il y a autre chose qui est très présent dans son œuvre, c'est la figure du Christ. Alors on va partir peut-être de cette crucifixion, là que vous avez sous les yeux, et je vais vous laisser, François Gauthier, nous décrire cette œuvre et nous dire... Nous dire ce qu'elle signifie.
Alors c'est une œuvre assez particulière. Je voudrais noter d'abord que c'est un événement en soi, que ce grand polyptyque, il faut que les auditeurs imaginent une œuvre.
Ça veut dire quoi ?
5 mètres par 5, qui aujourd'hui est suspendu dans le transept nord de la basilique Saint-Cernin. Et ça, c'est un événement. C'est une œuvre majeure d'Arcabas, mais presque une œuvre majeure du XXe siècle, parce qu'elle s'inscrit dans la peinture avec de très très grandes qualités. Les gens iront voir, sans doute. Elle s'inscrit aussi dans l'histoire du XXe siècle, au sens où c'est une œuvre de combat d'Arcabas, où il dit tout à la fois...
Alors, décrivez-la peut-être avant.
Alors, je la décris. C'est une œuvre composée de 8 tableaux. Les 4 tableaux centraux représentent une immense crucifixion, pleine de force. Et les 4 tableaux latéraux, deux d'un côté, deux de l'autre, évoquent les événements de la guerre d'Espagne et sous-entendent, plus que sous-entendent, disent par certains symboles qui sont présents, les égarements humains d'un certain nombre de prélats de l'Église qui ont pardonné ou justifié trop vite un certain nombre d'événements.
Le père Vincent Gallois disait qu'il y avait même une compression de mitre presque à la César en préparant l'émission.
Elle est très moderne, cette œuvre.
Voilà. Et donc, peut-être après sur la, comment dire, sur la lecture qu'on peut en faire.
Alors,
sur ce que ça dit de la peinture d'Arcabas.
Il faut peut-être vous donner quelques éléments de lecture au travers de l'historique de cette œuvre. D'abord, c'est une œuvre qui date des années 60, qui est ancienne, qui était le décor de fond de scène de la pièce de théâtre sur le texte de Bernanos, Le journal d'un curé de campagne, où le personnage vivant, l'acteur, s'adressait au premier personnage de la pièce, qu'est ce Christ crucifié. Les gens qui connaissent un peu l'œuvre de Bernanos seront sensibles au fait que cette œuvre était là pour illustrer Le journal d'un curé de campagne, mais elle est surtout inspirée des Cimetières sous la lune, qui est un des grands textes de Bernanos. Donc cette œuvre, elle porte comme titre complet Hommage à Bernanos. On ne peut pas la regarder sans penser aussi au travail et à l'écriture de Bernanos, et se dire que, pour ça que je disais que c'était une œuvre historique, Arcabas, à un moment donné, dit lui-même des choses du XXe siècle et des événements douloureux du XXe siècle. Il le fait aussi, comme il l'a fait toute sa vie, aux côtés de penseurs, d'écrivains qu'il a côtoyés et d'un mode de réflexion.
Père Vincent Gallois, sur cette œuvre, qu'est-ce que dirait le curé de la basilique Saint-Sernin ?
À la fois l'horreur de ce temps, parce que, en effet, Arcabas reprend la dénonciation que faisait Bernanos d'une complaisance ecclésiastique envers les massacres de la guerre d'Espagne, et ces massacres sont représentés. Et en même temps, la consécration de ce monde par le Christ, parce que ce grand crucifix englobe vraiment, il prend sous ses bras cette horreur, la complaisance des hommes, la violence, et en même temps, au pied de ce crucifix, il y a une enfant qui porte un panneau, où il y a la parole du Christ.
Ce qui est assez rare, ça vaut le coup de le souligner.
Voilà, ce panneau est écrit en latin, « Je suis ego sum et noli timere », »,« Ne craignez pas ». C'est véritablement la parole du Christ qui nous est adressée et qui prend dans la croix et la machine qui va permettre de transformer cette contradiction, cette souffrance, ces injustices en œuvre de grâce. Voilà. Et on a vraiment dans le politique exposé donc à la basilique, avec c'est vraiment une immense œuvre qui respire en plus dans la basilique. Mais véritablement, on a une confession pleine d'espérance.
Voilà, on va faire une deuxième pause musicale. Je rappelle donc cette exposition d'Arcabas qui donc a lieu à la basilique Saint-Sernin jusqu'au 4 juin prochain. Thank you.
Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vie en Église ce matin donc sur Arcabas. Si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que c'est une exposition donc, qui a lieu donc, à la basilique Saint-Cernin à Toulouse donc, depuis dimanche dernier et ce jusqu'à la Pentecôte le 4 juin prochain. Donc Arcabas, œuvre, comment dire, peintre majeur à découvrir. Alors j'allais dire peintre chrétien, mais pas tout à fait. Je vous propose en cette fin d'émission peut-être de faire un peu plus connaissance encore avec cet homme et puis par là même aussi un peu avec l'univers des artistes, qui n'est pas forcément l'univers le plus familier de tout à chacun. Arcabas se défend donc d'être un peintre d'art sacré. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que de fait, ses œuvres sont quand même essentiellement, ont une thématique essentiellement religieuse. Lui, il se définit comme un artisan. Alors, c'est probablement un signe d'abord de modestie, mais...
De modestie, je ne sais pas. En tout cas, de tradition. Peut-être que les grands peintres, là aussi, dans les grands ateliers de la Renaissance, étaient avant tout des artisans et ils avaient des ouvriers à leur côté. Se définir comme un peintre d'art sacré, c'est plus une étiquette qu'on lui a mise, parce que si on prend son parcours, là il y a les œuvres exposées aujourd'hui à Saint-Cernin, mais le parcours d'Arcabas, ce sont aussi des dizaines et des dizaines de monuments publics, églises ou pas, dans lesquels son œuvre figure. Il est de cette génération qui a connu le 1% par exemple, et beaucoup d'établissements scolaires en Isère, en Savoie, ont des œuvres magistrales, monumentales, des réalisations très importantes d'Arcabas.
Juste, c'est quoi le 1%, c'est pour ceux qui...
Alors le 1%, c'est encore, ça existe encore, mais c'est beaucoup moins pratiqué. C'était ce qui prévoyait dans les années 70-80 que chaque fois qu'un chantier public était mis en route, 1% de la valeur du chantier était consacré à une réalisation artistique. Donc vous avez des façades d'écoles, des façades de collèges, à l'IUT de Grenoble, à l'Institut d'études politiques de Grenoble, dans des stations d'épuration par exemple dans la région de Grenoble, il y a des grandes fresques tout à fait profanes, magnifiques, qui sont à l'éloge de l'eau, simplement. Vous avez dans la région grenobloise, à l'Institut d'études politiques, deux très très belles peintures, l'une sur la guerre, l'autre sur la paix. Voilà. Donc ça n'est pas qu'un peintre religieux, et son œuvre, dans la pièce d'état civil de la préfecture de Grenoble, vous avez une fresque en hommage à René Char. Donc c'est avant tout un peintre, et son œuvre, après on lui a collé l'étiquette peut-être un peu vite d'art sacré, comme on dit à un acteur qu'il est dédié au drame et qu'on lui laissera plus faire de la comédie, mais non, c'est un peintre complet.
Régis Contré.
Oui, en fait, la difficulté de l'expression peintre d'art sacré, c'est que pour beaucoup, ça signifie peintre d'art religieux. Et il y a souvent une confusion entre ces deux termes. Et pour Arcabas, la recherche du sacré, c'est une recherche qui est beaucoup plus vaste, simplement, que la recherche du religieux. C'est la recherche de la beauté. Une recherche qui, du coup, va permettre d'aborder des thèmes extrêmement différents qui ne sont pas du tout contradictoires les uns avec les autres. Représenter une scène biblique, représenter un nu, représenter un animal, tout ça concourt à cette recherche de la beauté. Et Arcabas... dit souvent que son œuvre s'adresse à la fois à ceux qui connaissent les évangiles et à ceux qui ne les ont jamais ouverts, et qu'il a une tendresse toute particulière pour ceux qui veulent bien voir ses tableaux en cherchant encore, ceux qui sont à la recherche et non pas ceux qui ont déjà trouvé ou qui pensent avoir déjà trouvé.
Alors, vous faites une transition idéale, parce que je voulais maintenant parler aussi de cette recherche de la beauté. On l'a évoqué à plusieurs reprises. En lisant un petit peu des choses sur lui, on a l'impression qu'il cherche la beauté presque comme on cherche Dieu, cet homme. Il dit, en tout cas, lorsqu'en 2009, on lui a remis les insignes de chevalier de l'ordre de Saint-Sylvestre, il a dit « De toutes les vertus passées en revue, il n'y en a qu'une seule que je pourrais revendiquer, probablement après qu'on ait fait son éloge, c'est la fidélité. Cette espèce d'obstination et d'endurance inexplicable la poursuivre la beauté inatteignable. » Qu'est-ce que vous diriez là-dessus, père Vincent Gallois, vous qui fréquentez beaucoup d'artistes? Est-ce que c'est la marque de fabrique des artistes, ou qu'est-ce que ça dit? Parce que cette recherche de la beauté, elle n'est pas propre aux chrétiens. Il y a plein de gens probablement qui écoutent cette antenne et qui
cherchent. Si vous voulez, Dieu est beau. Dieu est la beauté. Dieu est la vérité. Il n'est pas que la beauté, mais il est la vérité. Il est la justice, il est la bonté. Et donc, lorsque on se met sur le chemin de la beauté, eh bien, on finit par rencontrer Dieu. Alors cette beauté, c'est pas un esthétisme nécessairement, loin de là. C'est
toujours, parce qu'on peut aussi s'arrêter à une forme d'esthétisme, il y a une manière d'idolâtrer la beauté aussi.
Exactement, c'est... parce que justement à ce moment-là, on se subordonne à la beauté, on n'en est plus serviteur. Et voilà, se mettre sur la voie de la beauté, eh bien, c'est se mettre à la recherche de Dieu. Et l'homme est un... l'homme grandit quand il cherche plus grand que lui. Voilà, c'est ce que le pape Benoît XVI avait dit dans son discours aux Bernardins, lors de la visite en France. C'était « chercher Dieu ». En cherchant Dieu, eh bien, l'homme grandit et il génère de la culture. Et le langage d'Arcabas est intéressant pour nous, et c'est un langage artistique qui passera les siècles, parce que justement, il est dans une recherche de Dieu, dans une recherche de la vérité, dans une recherche de la beauté, et qu'il nous donne, par ses œuvres, le témoignage de cette quête. Et parce que il est au plus près de cette quête, et qu'il a cette inspiration et ce talent qui est le sien, qui est un talent... travailler, hein, il n'y a pas de... S'il est artisan, ça veut dire qu'il il travaille, c'est pas tombé du ciel, les affaires. Il nous donne de participer à sa propre quête, il nous partage son regard, c'est ça l'intérêt d'un artiste, et aujourd'hui, on a une œuvre qui nous interpelle, une œuvre qui dit quelque chose. Alors, croyant, non-croyant, ce sont des mots qui sont de plus en plus à prendre avec des pincettes. Ce qui me paraît important, c'est est-ce que tu cherches ? Est-ce que tu cherches Dieu ? Est-ce que tu cherches la beauté ? Le reste, tu appelles ça comme tu veux, c'est pas très important. Est-ce que tu cherches Dieu ? Si tu cherches Dieu, si quelqu'un cherche la beauté et qu'il vienne voir Arcabas, je pense que Arcabas a quelque chose à lui dire.
Oui. Si je me permets.
Je vous en prie, François Gauthier.
Il est dans une quête permanente. C'est-à-dire que quand on parle de chercher, le visiteur va chercher, mais Arcabas continue à chercher, et c'est peut-être parce qu'il est encore sous tension. D'espérer trouver, l'œuvre idéale, que sa peinture est encore d'une vivacité, et pour longtemps encore, j'espère, d'une vivacité incroyable. Parce que la quête n'est pas finie, elle est en cours.
Alors, ça me permet d'évoquer aussi un autre aspect qui ressort d'un certain nombre d'interviews, c'est que ça peut aussi détendre certains auditeurs qui, tout en confessant, on va dire, le Christ, ont parfois des doutes. Il dit de lui-même, pourtant c'est un grand peintre, donc en partie d'art religieux et évangélique, il dit que sa foi est en clair-obscur. Par exemple, il a une citation comme ça, il dit « Je suis un chrétien certes, mais pas des plus exemplaires, car ma foi subit parfois de dangereuses éclipses, ce qui me rend très modeste. Il dit aussi qu'il a cette prière, « Seigneur, je suis un agneau parmi ton troupeau, un agneau parmi tant d'autres qui peut s'égarer. » Voilà, on sent que c'est un homme qui, comment dire, avec un ciel contrasté. Est-ce que vous qui êtes proche de lui, c'est des choses qu'il confie, ou est-ce qu'il le confie de manière exceptionnelle comme ça dans certaines interviews ?
Non, je pense que c'est quelque chose dont il ne se cache pas. C'est peut-être la garantie d'ailleurs d'une foi éclairée, que d'être toujours en recherche et avec des parts de doute et de réflexion. Voilà, c'est un homme de la réflexion. D'ailleurs, ces toiles sont des toiles réfléchies. Elles nous apparaissent belles, posées, etc. Mais elles sont le fruit d'un travail, d'une construction. Pour ceux qui ont eu la chance de voir ces carnets très personnels dans lesquels il élabore le projet d'une toile, il y a une réflexion, il y a des doutes, il y a des repentis. Ratures. En peinture, ce qu'on appelle un repenti, c'est une reprise.
D'accord.
Et je pense que pour la foi, c'est pareil. On n'a pas une foi comme ça, un modèle de foi parfaitement établi, construit, etc. Si j'osais, je dirais un bon croyant, c'est un croyant qui doute et qui continue à réfléchir.
Père Vincent Gallois, peut-être que vous pourriez nous dire un mot là-dessus, parce que c'est quand même, ça peut être important pour nos éditeurs, qui sont probablement traversés aussi par ces questions parfois. Et puis j'ajouterais qu'il dit aussi de lui quand même, je suis davantage un homme du matin de Pâques. Et donc au-delà de ces ombres et de ces lumières, de ces doutes, il y a comme une certitude en fait de la résurrection.
Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous dit saint Paul. Donc nous sommes tous, comme chrétiens, des chrétiens du matin de Pâques, des chrétiens de la résurrection. Cette foi en la résurrection, elle nous fait comprendre que aussi nos vies passent par des chemins de traverse, par des chemins d'épreuves, mais que tout cela est repris par le Christ et porté en gloire, dans la résurrection. Alors qu'une foi soit une foi qui doute, comme dit François Gauthier, ou voilà, quand on est des chercheurs, celui qui prétend enfermer la foi dans son expression figée devient idolâtre. Hein.
La foi. C'est-à-dire quoi, enfermer sa foi dans son expression figée, c'est...
Si vous voulez, celui qui n'a pas une foi qui est toujours en mouvement, qui est toujours en croissance, qui est toujours qui remet en cause ses certitudes immédiates, risque de prendre ses idées pour la foi. La foi est plus grande que ce que nous en disons. La réalité est toujours plus grande que les mots qui servent à la désigner. C'est ça qu'il nous faut saisir. Le Seigneur est au-delà. Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous, par sa puissance, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même imaginer, nous dit saint Paul. Donc, si vous voulez, si on finit par comprendre sa foi, c'est-à-dire l'enfermer à l'intérieur de soi-même, eh bien, notre foi nous est plus petite. La foi, Dieu est plus grand que nous. Voilà. Et il connaît toutes choses. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons à entrer dans le mystère de la foi comme on entre dans une gigantesque cathédrale. C'est un monument dont nous avons à explorer les recoins. C'est pour ça que l'œuvre d'Arcabas est intéressante, parce qu'elle nous stimule dans une réflexion à la fois et dans un regard sur le monde comme sur l'Église. Alors, je suis heureux que l'exposition donc à la basilique se continue jusqu'à la Pentecôte, parce que le polyptyque est présenté dans le transept nord où nous disons la messe en semaine. Et donc, cette œuvre-là, qui a été un décor de théâtre, est aussi, pour le temps de l'exposition, une œuvre liturgique.
Voilà, et ben merci beaucoup d'être venu parler d'Arcabas. Donc, je rappelle les dates. Donc, cette exposition donc, sur ce grand peintre, Arcabas, qui donc n'est pas né Arcabas, hein, j'ai oublié de le dire. Quel est son nom ?
Alors, Jean-Marie Pirot.
Voilà.
Arcabas est son identité d'aujourd'hui, mais c'est son nom de peintre, oui.
Voilà, donc une exposition à voir et qu'on imagine magistrale et magnifique. Donc, jusqu'au 4 juin, jusqu'à la Pentecôte, donc à la Basilique Saint-Sernin de Toulouse. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Quentin Espitalier. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.